moins d'énergie pour coder et donc pour mettre en mémoire. Là, on peut les deux. Ça va être dépendant aussi de sa motivation. Hein, c'est-à-dire que s'il a besoin de ce qu'on lui propose, eh bien, il va être beaucoup plus motivé pour l'apprendre. Hein. Donc, vous le voyez bien d'ailleurs, quand ils ont un sujet qui les passionne, ils peuvent y passer des nuits. Hein. Eh bien, voilà. Là encore, l'école n'est pas toujours en phase avec ce dont ils ont besoin. Hein. Beaucoup d'enfants, surtout dans les petites classes, à haut potentiel, vont en classe et, entre guillemets, apprennent des choses qu'ils savent déjà. Donc ça, ça n'est pas très motivant pour eux. La mémoire va être dépendante de l'état émotionnel aussi dans lequel est l'enfant. Si l'enfant a un bon relationnel avec la maîtresse ou le maître ou les profs, vous le savez tous, ça se passe beaucoup mieux que quand le relationnel est mauvais. Hein, parce que l'état émotionnel se code en même temps que l'information apprise. C'est important aussi, par exemple, pour ces enfants qui passent un très mauvais CP. Hein, l'année de CP étant quand même une classe fondamentalement importante pour l'apprentissage de la lecture. Et si le relationnel est très mauvais, ce sont des enfants qui, dans les années qui suivent en tout cas, vont associer à l'acte de lire le mauvais relationnel qu'ils ont eu avec la maîtresse qui leur a appris à lire. Et qui, du coup, pourront, pendant un temps, alors ça peut être les maths, hein, je prends des exemples comme ça, auront du coup un mauvais relationnel avec la lecture et ne voudront pas lire ou n'aimeront pas lire. Ça peut être le cas avec d'autres choses. Le contexte aussi est dépendant hein, de ce qu'on apprend. Et ça, je leur explique aussi parce que ça peut les aider pour les enfants qui sont sujets, entre guillemets, aux trous de mémoire. Hein, c'est-à-dire certains sont tellement stressés que, arrivés devant leur feuille, ils disent c'est trou noir, je ne m'en rappelle plus. Et là, je leur explique que le contexte dans lequel ils ont appris ou révisé leur leçon a été codé en même temps que l'information. Donc si, puisque c'est moins stressant pour eux, ils peuvent se remettre dans leur chambre, à leur bureau, avec leur cahier devant eux, au moins en imagination, eh bien ça va aider, en replaçant le contexte, à leur faire accéder à l'information en mémoire. Et ce petit point très très important sur comment revoir une leçon. Parce qu'effectivement, s'ils ont compris en classe, la leçon, la compréhension, elle est faite, elle est dans leur mémoire. Sauf qu'ils ne savent pas où c'est. Hein. Et généralement, les enfants, à 99% en tout cas, ce que je vois, révisent leur leçon en relisant leur leçon. Ils relisent leur leçon et ensuite ils vont réciter ou ils réécrivent à papa ou à maman. Et là encore, c'est vraiment pas la bonne technique. Hein. Parce que quand on va relire sa leçon, encore plus si on l'a déjà dans sa mémoire, ça veut dire que le cerveau va la reconnaître, enfin la mémoire va la reconnaître et va emmener l'enfant directement à l'endroit où elle est rangée. Et du coup, ils vont être persuadés qu'ils savent leur leçon. Et comme ils vous la récitent dans la foulée, vous aussi vous êtes persuadés qu'ils savent leur leçon. Alors qu'en fait, la seule chose qu'ils savent en faisant ça, c'est que oui, cette leçon, elle est dans ma mémoire, elle existe dans ma mémoire. Et c'est très bien. Sauf qu'ils ne savent toujours pas où elle est. Parce que le jour de l'évaluation, ils n'auront pas le droit de relire avant pour permettre à leur cerveau d'aller retrouver l'endroit où elle est rangée. Vous voyez l'idée? Donc, la bonne technique, c'est de, pour réviser une leçon, hein, puisqu'elle est censée avoir été comprise en classe, pour réviser une leçon, de ne jamais, au grand jamais, commencer par la relire. Jamais. Hein. On commence par essayer de se rappeler de quoi parle cette leçon. Alors évidemment, la première fois, on ne va peut-être pas se rappeler grand-chose, mais ce n'est pas grave. Ça permet d'être dans la situation dans laquelle on sera le jour de l'évaluation, à savoir, je n'ai pas eu le droit de la relire avant, de quoi je me rappelle. Hein. Donc on fait ce travail de quoi je me rappelle, qu'est-ce que j'ai en mémoire sur ce sujet, on dit, et ensuite seulement on va aller vérifier si c'est juste, si c'est complet, si je sais utiliser. Et on va refaire ce travail le plus souvent possible, ça ne prend pas des heures, hein, ça prend genre 5 minutes par soir. Et on va refaire ce travail pour habituer ce chemin, habituer mon cerveau à aller trouver l'information. Et mais si mon cerveau sait que son projet c'est d'aller trouver l'information, vous allez voir que ça va beaucoup, beaucoup l'aider et qu'on va arriver quasiment au bout d'une semaine en connaissant sa leçon à partir de rien, juste à partir de qu'est-ce que je sais sur. Alors pour cette notion de projet, j'ai encore un petit exercice pour vous, ce sera le dernier promis, puisque effectivement le cerveau a besoin de comprendre ce qu'il fait, mais de savoir ce qu'on attend de lui et ce qu'on lui demande. Alors, je vous donne un petit exercice, soyez très attentifs. Lâchez vos crayons. Je vais vous afficher un texte. Et dans ce texte, qui ne va être affiché que 15 secondes, attention, c'est très rapide, vous allez devoir comptez le nombre de H. Hein, la lettre H est écrite dans un certain nombre de mots de ce texte. Et votre travail, si vous l'acceptez, c'est de compter les H. Êtes-vous prêts ? 15 secondes, hein, pas une de plus. Qui a trouvé entre 7 et 9 ? Waouh ! Vous êtes très fort. Qui a trouvé plus que 9 ? Ah ah ! Alors vous avez des dons de double vue, facilement. Qui a trouvé moins de 7 ? Ah, t'as pas eu le temps de finir, alors t'es pardonné. Qui d'autre a lu tout le texte, mais... Non, ceux qui ont eu moins de 7, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de finir ? C'est ça ? Ou il y en a qui ont lu tout le texte et qui en ont trouvé moins de 7 ? Oui, là-bas ? Alors peut-être êtes-vous la seule à avoir compris de quoi parlait le texte.
Je ne sais pas.
Alors, pour que vous ne soyez pas trop frustrés, je vous remets le texte. Alors cette fois-ci, votre projet change, c'est-à-dire votre projet n'est plus de compter les H, mais de comprendre de quoi parle ce texte. D'accord ? Et vous allez voir ce qui se passe dans votre cerveau. Ah, on découvre des trucs, hein ? Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé, en fait, entre cette fois-ci et la fois précédente, votre projet était différent en lisant ce texte. Voyez, donc les actions mentales que votre cerveau a mis en œuvre étaient aussi différentes. Vous voyez un peu la différence là entre les deux, hein? Donc, effectivement, le projet qu'on donne à l'action qu'on va faire est très très important. Et ce qui se passe à l'école, c'est que déjà beaucoup d'enfants font des choses sans savoir pourquoi, ce que je disais tout à l'heure. Donc, ils n'ont aucun projet. Donc, du coup, voilà, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Et quelquefois aussi, le projet de l'élève est différent de celui du prof. Alors j'ai mis l'exemple dictée, mais on peut prendre un exemple en problème aussi. C'est-à-dire qu'en dictée, le professeur ou l'instituteur va dire « relisez votre dictée ». Et moi, combien j'ai d'élèves qui me disent « mais je la relis ma dictée, je vous jure que je la relis ». Et effectivement, il la relit, ce qui fait qu'il corrige aucune faute. Du coup, ils sont libres de la relire et dans sa tête, il la relit. Vous voyez ? Alors que le prof, quand il dit « relisez votre dictée », en principe, il veut dire « vérifier l'orthographe des mots, vérifier les accords, etc. » Sauf qu'il dit « relisez ». Vous voyez ? Et donc l'enfant relit, et du coup ça sert à rien. Et effectivement, les profs, quand je leur dis « laissez-leur du temps pour vérifier leur dictée », me disent, surtout au collège, « ah non, 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 moi je leur laisse plus de temps parce que c'est du temps perdu, ils ne font rien ». Ils font le bazar, ils discutent à droite à gauche. Parce qu'effectivement, si on leur dit de relire et qu'on ne leur explique pas en fait ce qu'ils doivent faire quand ils relisent leur dictée, eh bien, ils ne savent pas quoi faire. Donc moi, j'établis avec eux, généralement en fonction des fautes qu'ils font le plus fréquemment, une petite grille de vérification de dictée où ils savent ce qu'ils doivent faire pendant qu'ils relisent leur dictée. Et là, bizarrement, les fautes diminuent, mais ils ont besoin de plus de temps. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut se discuter avec le professeur de français, moi, je suis surtout, mais il y a pas mal de professeurs de français qui maintenant acceptent que l'enfant ait sa petite grille de vérification dans sa trousse et qu'il puisse la sortir pour se remémorer ce qu'il a à vérifier. En mathématiques, c'est pareil, hein, beaucoup d'enfants, et en particulier le potentiel, vont avoir comme projet de résoudre le problème, c'est-à-dire de trouver la bonne solution. Alors que le prof, lui, certes, il veut que le problème soit résolu, mais il veut surtout savoir comment ça s'est passé dans la tête de l'élève, quel raisonnement il a eu pour aboutir à ça. Hein. Et l'élève, du coup, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas tous les points, alors qu'il a trouvé la bonne réponse. Donc, là encore, beaucoup de choses à expliciter. Alors, je vous ai mis après un petit exemple, très significatif d'une incompréhension prof-élève. Donc, bon, c'est en anglais, mais on comprend bien que la consigne est écrivez les mots de chaque boîte, hein, dans l'ordre alphabétique. Voilà. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est forcément un potentiel qui a répondu ça. Donc évidemment, la maîtresse attendait que crayon, les quatre mots, soient mis dans l'ordre alphabétique, alors que l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a écrit dans l'ordre alphabétique les lettres de chaque mot. Là encore, vraiment, si on connaît la précocité, on se dit, c'est génial. Et évidemment, cet enfant, il devrait avoir un 22 sur 20, parce qu'ils vont faire un travail encore plus compliqué que ce qu'on lui demandait, surtout que j'ai vérifié, c'est juste. Il a mis deux fois plus de temps, bien évidemment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet exercice qui a été proposé le jour de l'évaluation n'avait certainement jamais été proposé avant à cet enfant. Parce que sinon, il se serait rappelé que, quand elle nous demande ça, il faut que je mette juste les quatre mots dans l'ordre alphabétique. Vous voyez? Donc là encore, attention au niveau des enseignants de ne pas proposer le jour d'une évaluation quelque chose, un type d'exercice qui est complètement nouveau et qui n'a pas été proposé avant. Ou alors, accepter que la compréhension de la consigne puisse être comprise différemment. Hein, parce que là, à la limite, c'est juste aussi. Hein, et il a beaucoup plus de mérite que les autres. Alors, j'en termine avec le profil pédagogique, donc le travail fait par la gestion mentale quand on reçoit un enfant, pour le mettre dans cette logique de réussite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour lui permettre de sentir et d'entraîner tout ce que je viens de vous dire. Alors d'abord, ça va lui permettre de connaître ou de mieux connaître son fonctionnement. Hein. Est-ce que mon cerveau y traduit plutôt visuellement, auditivement, kinesthésiquement? Qu'est-ce que ça m'apporte en positif? Qu'est-ce que je dois travailler? Est-ce que je suis plutôt appliquant, expliquant? Comment j'utilise ma mémoire? Comment est-ce que je fais pour apprendre mes sons, etc. Donc déjà, de connaître tout ça, déjà, c'est un énorme soulagement, parce que déjà, ça va les déculpabiliser aussi des choses qu'ils n'arrivent pas bien à faire. On va ensuite leur faire prendre conscience des images mentales, c'est-à-dire il se passe quelque chose dans ta tête, même si tu n'en as pas conscience. Et avec un certain nombre d'exercices propres à la gestion mentale, on va les faire travailler sur les images mentales. Alors au début, évidemment, pas du tout sur des choses scolaires, hein, parce que quand ils viennent y voir, c'est quand même ils sont en difficulté scolaire, donc on ne va pas en remettre une couche. Donc on va travailler sur d'autres domaines, sur ce qu'ils aiment bien, sur le sport, sur la musique, sur le cinéma, sur ce qu'ils aiment, pour leur faire prendre conscience de tout ça. Et ensuite, on va les faire transférer. On va leur permettre également d'évaluer la performance de leur stratégie. Est-ce que ce que je fais me rend performant ou non? Est-ce que ça me dérange de travailler 2 heures tous les soirs alors que ce que j'ai à faire pourrait être fait en 30 minutes? Voilà. Donc on va évaluer ça avec eux et leur permettre petit à petit de changer, s'entraîner à faire des transferts, je vous l'ai dit. Hein, on commence évidemment sur du non scolaire pour transférer ensuite, une fois que la procédure est acquise et comprise, sur quelque chose de scolaire. Mais surtout, on va les aider à créer une motivation au changement. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis en échec maintenant que je suis en échec toujours. Hein. Je sais maintenant mes points forts, mes points faibles, je vais les travailler, je suis dans une dynamique de changement, de réussite, et c'est possible pour moi comme pour tout le monde. Voilà. Et donc je termine avec ce dessin que j'adore, vous connaissez peut-être, qui là encore je trouve ça, très significatif, et ça illustre bien la problématique de la précocité. Ce prof qui dit à tous ses élèves très différents, que pour une sélection juste, tout le monde va passer le même examen qui est grimper à cet arbre. Voilà. Hein, donc voilà, ça me paraissait une bonne illustration. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous mets mes coordonnées et mon site si vous avez des questions, etc. Et je crois que Cathy a gentiment mis une petite...